Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Merci d'être avec nous. Avec moi, il y a toujours Paul Lassène, journaliste RMC, qui est là pour tout nous expliquer, pour qu'ensuite on puisse ensemble tous débattre. Au 32-16, Loumire Lapré est toujours là également, militante écologiste, Laurent Dandrieux, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles, et Juliette Briens, journaliste à L'Incorrect. Dans un instant, l'affaire Grégory, l'affaire Lina, l'affaire Émile, notre fascination pour les faits divers est-elle malsaine? On vous pose la question, vous nous appelez au 32-16 et dans un instant, Dominique Rizet, co-présentateur de Fait entre l'accusé, sera avec nous. À 14h30, les notaires vous répondent. À 14h40, Paul, les immanquables, on parlera de quoi notamment?
Nicole Belloubet qui vient d'annoncer le déploiement de forces mobiles pour sécuriser les établissements scolaires. On va parler de la love story entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien Lula. Et puis, c'est un sujet qui tient à cœur à Laurent, je le sais, nos chansons sont de plus en plus pauvres niveau paroles.
C'est vrai.
RMC Estelle Midi.
Ce générique, évidemment, évidemment, vous le reconnaissez, le générique de Faites Entrer l'Accusé. Aujourd'hui diffusé, c'est tous les dimanches soirs à 21h10 sur RMC Story. On n'est pas peu fiers. Et je vous l'ai dit, je ne cesse de le répéter, Dominique Rizet sera avec nous dans un instant. C'est la passion du jour. Passion des Français pour les faits divers. Paul, pas une semaine sans qu'une nouvelle affaire, ou même une affaire plus ancienne, ne fasse la une de l'actualité.
Oui, très récemment, il n'y a qu'à voir l'engouement qu'a suscité la sortie du livre de Christine Dupont de Ligonnès, sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, pour voir à quel point l'obsession des Français pour les faits divers est grande. On parle de Faites Entrer l'Accusé, émission mythique de la télé française depuis 24 ans à l'antenne, hein, diffusée tous les dimanches sur RMC Story à 21h, qui a réuni par exemple plus de 360 000 téléspectateurs le week-end dernier. Autre exemple, la série sur l'affaire Doutreau, aujourd'hui dans le top 10 des séries Netflix en France, 4 ans après le succès phénoménal du documentaire consacré à l'affaire Grégory, ou encore un programme consacré à Monique Olivier, la femme de Michel Fournier. Et enfin, autre exemple, chez nos confrères de M6, l'émission Appel à témoins de Julien Courbet réalise elle aussi, de bonnes audiences et fait même participer les Français en leur proposant de témoigner et donc de participer directement ou indirectement à l'enquête avec leur témoignage. Une fascination populaire donc, peut-être politique aussi, puisqu'il y a 2 ans, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a lancé le fameux pôle cold case pour résoudre les affaires restées sans réponse judiciaire.
Merci beaucoup, Paul. J'entends ses pas. Vous entendez sa voix. Salut, Dominique.
Ça va,
Dominique.
Rémi?
Ouais, très bien. Merci.
Bonjour,
d'être avec nous.
Salut, Dominique.
Ça nous fait. J'ai pas arrêté. Alors là, on n'a jamais autant prononcé.
Il est comme un enfant. Tout le monde m'envoie des messages en me disant on t'écoute sur RMC.
Je suis comme un enfant, c'est vrai, Dominique. Bon, on se connaît, mais
je connais bien.
Ouais, je suis ravi que tu sois avec nous parce que forcément, on se connaît. Et puis, Faites Entrer l'Accusé, c'est Faites Entrer l'Accusé. Moi, personnellement, on va en parler. On va parler de la passion des Français pour les faits divers. Moi, j'en parlais tout à l'heure avec Laurent Dandrieux, qui lui, il fut plutôt les faits divers. Voilà. Mais le premier numéro de Faites Entrer l'Accusé, c'est en 2000.
24
ans.
Je me souviens, j'étais tout jeune journaliste à l'époque. C'était un jeudi soir, si je me souviens, parce que c'était diffusé le jeudi soir.
Ouais.
Le tout premier numéro, tu vas me rappeler, mais c'était sur une dame qui avait assassiné son mari ou son compagnon, qui l'avait découpé en morceaux.
Ouais. Il y a des maris qui méritent parfois.
Ouais. Et je me souviens que moi, je suis resté, j'étais seul chez moi.
Ouais.
Je suis resté scotché sur mon siège quand à la fin de l'émission, les 10 dernières minutes.
Je crois que c'était Florence Federle.
C'est ça, c'est possible. Et cette dame qui avait purgé sa peine est venue devant les caméras s'expliquer.
Ouais.
Et je trouvais ça, mais incroyable.
Ouais,
ça avait complètement révolutionné le genre.
Alors, tu sais qu'avant, il y a eu une série qui s'appelait Histoire 2. Ouais. C'est les premiers Faites Entrer l'Accusé. Alors on faisait histoire de meurtre d'enfant, histoire de meurtre en famille. On en a fait 3 ou 4. Et on avait fait les histoires de meurtre en famille. On avait fait le docteur Godard, qui avait tué toute sa famille et qui était parti sur un bateau. Enfin, qui avait tué sa femme, sans doute, et puis ses enfants peut-être, et qui était parti sur un bateau. Ça s'appelait Histoire de disparition cette fois-ci.
Bah, tiens, puisque tu es là, Dominique, et puisque tu parles, je vais te poser directement la question.
Vas-y.
Les affaires, les faits divers, les affaires Émile, Lina, Grégory, ouais, toutes les autres, est-ce que notre fascination, parce que le public est fasciné par les faits divers, est-ce qu'il y a un côté malsain quand même là-dedans?
Non, il n'y a pas un côté malsain. Je ne trouve pas que ce soit malsain. Tiens, on pose souvent la question, on dit, mais comment tu fais pour vivre avec ça? Est-ce que tu vas voir un psy? Est-ce que, ben non, j'ai une vie normale. Et je vais au sport, j'ai des mômes, je fais de la moto, je vais à la chasse, j'ai des potes, je bois des coups, je vis normalement. Et non, non, je crois que ça fait partie de notre quotidien. Tu vois, toutes ces questions qu'on se pose, regarde. Lina, elle a disparu en septembre, on ne sait pas où elle est. Émile, c'est quand même fou, il a 2 ans et demi, il est dans un hameau de
Auvernais.
Il y a 15 maisons au Auvernais, on est sans nouvelles de lui, on ne sait pas où il est. Grégory, on ne sait pas qui l'a tué. Tout ça, c'est des mystères, on en parle dans les dîners, on en parle partout, on en parle à l'école de la magistrature, à l'école des commissaires de police ou à l'école de la police scientifique, chez les gendarmes. On en parle tout le temps parce que ça reste, ça traverse notre inconscient collectif, c'est des discussions à la machine à café, c'est entêtant, quoi. Où il est ce petit môme de 2 ans et demi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on ne le retrouve pas avec tous les moyens dont on dispose aujourd'hui?
Cette fascination, elle est liée aussi au fait que on se transpose, on se dit que ça pourrait être nous.
Bien sûr, mais bien sûr. Et bien sûr, moi j'ai raconté l'histoire 2-3 fois, mais j'ai un fils de 30 ans qui s'est fait poignarder dans la rue il y a 2 ans, là, en essayant de séparer 2 jeunes qui se battaient. Il a pris 2 coups de couteau, ça a été très chaud. Et quelques temps après, il y a une gamine dans le Val-de-Marne qui était morte en essayant de séparer aussi des gamins dans une cité. Il y a eu une marche blanche. Sa mère avait vraiment bien parlé. C'était magnifique. Sa sœur aussi. Et je me suis dit, tiens, ça aurait pu m'arriver. Ça pourrait être moi. J'étais à l'antenne ce samedi-là, le jour de la marche. C'était une marche jaune parce qu'elle aimait la couleur jaune. Et je me suis dit, ça pourrait être moi. Ouais, ça peut nous arriver, bien sûr. Et là, ça nous est pas arrivé. Donc, tant que ça nous arrive pas, j'ai envie de dire qu'on regarde ça comme un peu comme un spectacle, ouais.
Alors, si je peux me permettre, est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre la violence de rue et effectivement l'explosion de l'insécurité en France? Ouais. Et là, c'est vrai qu'on se dit, ça pourrait être nous, et c'est une vraie angoisse. Ouais. Et le fait divers sur les affaires familiales, intrafamiliales, etc., avec des gros mystères où on se détache justement totalement de l'affaire en disant ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Et c'est pour cette manière qu'on arrive à être fasciné sans ressentir de tristesse, dans le sens où on s'en détache complètement, quoi.
Ouais, je pense que c'est exactement ça. C'est tomber dans un fait entrer l'accusé ou se retrouver dans un fait entrer l'accusé. Il faut vraiment vivre une histoire compliquée. Puis, il faut savoir quand même que le secret d'un fait entrer l'accusé, c'est qu'il y a un mystère. On peut pas, si quelqu'un tue sa femme demain, une femme tue son mari demain et que le surlendemain elle est arrêtée, il n'y a pas d'histoire pour nous. Donc il faut que ça feuilletonne. Donc ça arrive dans des familles qui sont les nôtres, à tous les 6 ici. Donc oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de se retrouver dans un fait entrer l'accusé, dans une histoire criminelle souvent sordide ou compliquée, ou alors dans une bagarre de rue. Oui, bien sûr. Moi, j'ai plus peur de me retrouver
une bagarre de rue.
Je roule sur un gros scooter, de me faire piquer mon scooter, de prendre un mauvais coup. J'ai plus peur de ça.
D'habitude dans l'émission, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, on fait le tour de nos chroniqueurs et après on vous pose directement la question au 32-16. Notre fascination pour les faits divers, est-ce qu'elle est malsaine? Tiens, je te pose la question, Lumière. Est-ce qu'il y a un côté malsain là-dedans, selon toi?
Bah, je me pose la question depuis ce matin qu'on a eu le sujet. Je pense que ce qui nous fascine, c'est la noirceur de l'humain. Je crois de se dire, mais enfin, ces gens-là ont l'air normaux. Ça pourrait être mon voisin, ça pourrait être la nounou, ça pourrait être... Et ils basculent dans l'atroce, dans le monstrueux. Ils deviennent des monstres. Et ça, je pense que c'est assez fascinant parce qu'on se dit, mais c'est quoi le cliquet, quoi? Enfin, à quel moment ça part complètement... en cacahuète. Bon, en transparence, on en a un peu parlé. Moi, j'avoue, c'est pas mon délire. Les faits divers, je comprends pas.
Ça viendra, ça viendra.
je suis pas sûre.
Tu nous avouais que t'avais jamais. Tu le connais pas, fait entrer l'accusé.
Non.
Bon, tu vas voir, ça va venir. Vas-y.
Désolée.
Bah, tu vas en voir un après.
Je crois, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça dit de notre société, ce que les drames disent de notre société. On sait que, par exemple, des enfants qui meurent, bah, il y a plus d'enfants qui meurent quand ils sont délaissés. Donc, par exemple, quand ils sont à l'aide sociale à l'enfance, quand ils sont dans des milieux très déstructurés, très dysfonctionnels. Et moi, en tant que personne politique, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions pour ne pas que ça arrive. Parce que je crois que parfois, avec ce genre de faits divers, on a l'impression que c'est simplement des personnes qui dysfonctionnent. Or, c'est aussi des systèmes qui dysfonctionnent.
Le fait divers, il est politique.
Oui.
Il est politique parce qu'il y a des faits divers qui sont à l'origine de lois qui ont été votées au lendemain d'un crime, la loi sur la rétention de sûreté, la loi sur l'irresponsabilité pénale, toutes ces lois ont évolué et le politique s'empare du fait divers. D'ailleurs, il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui font leur beurre là-dessus.
Et alors c'était mon deuxième élément, c'est que moi ce qui me pose vraiment problème, c'est l'instrumentalisation honteuse qu'on a vue dans plusieurs affaires. Je pense à l'affaire Lola, je pense à Enzo, et je pense à tous ces jeunes qui décèdent, notamment encore il y a quelques semaines, une jeune fille qui est retrouvée pendue dans un hôtel parce qu'elle est placée là par l'aide sociale à l'enfance. Et donc en fait, tout le monde se fiche. Et ça m'interroge.
Donc ça, vous l'instrumentalisez.
Mais non, c'est pas de l'instrumentalisation. Voilà. Je remarque
que parce qu'elle est à l'aide à l'enfance, elle s'est pendue, tout le monde s'en fout, donc vous instrumentalisez.
Non, je remarque qu'il y a des morts.
C'est exactement la même chose.
En tout cas, ce qui est très clair, c'est que Dominique Rizet a raison lorsqu'il dit que tout fait divers est très politique.
Et d'ailleurs,
Laurent Dandrieux.
Pas tous, mais on peut pas à la fois dire il y a des faits divers qui auraient pu être évités parce qu'ils traduisent des phénomènes de société, et en même temps dire c'est atroce, les politiques s'en emparent pour instrumentaliser. Je réponds à la question sur. Est-ce qu'il y a un côté malsain ? Il y a évidemment une part de voyeurisme dans la fascination que ces faits divers exercent, mais ça, c'est vieux comme le monde. Ça existera toujours et ça a toujours existé. Après, la différence, c'est plus dans le traitement apporté par les médias. Il y a certains médias qui, effectivement, ont tendance notamment à harceler les familles, à ne pas respecter la douleur des familles. Voilà, j'ai vraiment de vraies réticences là-dessus. Après, il y a du voyeurisme, mais il y a aussi une identification, tu le disais tout à l'heure, on se dit tiens, ça aurait pu être quelqu'un de ma famille. Il y a aussi un intérêt d'empathie. Moi, c'est vrai, quand j'ai vu la bouille du petit Émile, mon cœur a fondu et j'ai eu évidemment la première réaction d'empathie pour cette famille. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que aussi, on a des vies souvent qui sont très noyées dans le train-train, métro, boulot, dodo. Et je pense que le fait divers, pourquoi ça fascine autant, c'est aussi parce que c'est la réintroduction du romanesque dans la vie.
Extraordinaire aussi.
Dans la vie quotidienne, parce que le romanesque, c'est quoi ? C'est le docteur Roman, le faux docteur Roman. C'est un voisin, il y a un type ordinaire qui a une vie de famille ordinaire. Puis tout à coup, on découvre qu'en fait, il y avait une.
Il ment à tout le monde.
Façade ordinaire, il y avait une histoire incroyablement romanesque. D'ailleurs, Emmanuel Carrère a fait un roman.
Ouais, l'adversaire. Tu restes avec nous, évidemment, Dominique. On va aller au 32-16. Rejoindre ceux qui nous appellent. Fabien est avec nous. Bonjour, Fabien.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour.
Merci. Bonjour Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Fabien, vous nous appelez d'où ?
Alors, j'appelle à côté d'Aix, Aix-en-Provence.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie ?
Alors, j'ai été policier municipal. Après, j'ai été chauffeur de sécurité.
Très bien. Bon. Les faits divers, ça vous passionne ou pas ?
Alors, déjà, je voulais dire à M. Dominique Rizet que c'est grâce à lui que je suis passionné des tribunaux. Je vais dans les tribunaux, les assises correctionnelles, tout ça. J'adore ça. Alors moi, ce qui me passionne, c'est pas...
Merci Fabien.
Merci. Je suis ému, parce que de vous parler, ça m'est...
Je vous ferai un petit cadeau après, je vous dirai.
D'accord.
Allez-y.
Donc, le truc, moi, ce qui me passionne, c'est pas le voyeurisme. Moi, voir les taches de sang, tout ça, je m'en fous. C'est rentrer dans la tête de l'enquêteur...
Il est merveilleux, Fabien.
Rentrer dans la tête de la personne qui a commis cet acte. On va dire, pourquoi, comment... Pourquoi il en est arrivé là ? Comment il a fait ? Déjà, comment il s'est fait choper ? Parce que quand on va dans les tribunaux, c'est quand le gars il s'est fait choper. Par exemple, vous avez le petit Grégory. Pour moi, c'est un meurtre parfait parce qu'on ne sait toujours pas qui c'est qui a tué qui. Le petit. On ne sait pas. Dans l'affaire de Ligonnès, il a tué tout le monde. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. On ne sait pas. Alors, on se met dans la tête de l'enquêteur. On dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Un Colombo. On va dire un Colombo. On va dire... pourquoi il a fait ça ? Alors, on va essayer de comprendre, d'essayer de trouver les petits indices qui a fait que il a chuté ou l'a fait. qu'il est passé à travers les mailles du filet, il ne s'est pas fait attraper. C'est ça c'est pas le voyeurisme, on va dire, dans la cage de sang. Ça, franchement, c'est morbide. Ça, c'est pas le voyeurisme, c'est de la morbidité. Essayez de comprendre les choses.
Fabien, j'aime bien votre approche parce que le fait divers, enfin pour moi en tout cas, c'est d'abord de l'humain. J'ai rencontré tout un tas de gens en prison. Je suis beaucoup allé dans les prisons. Et dans Faites Entrer l'Accusé, on raconte toute l'histoire. Depuis le début, les faits, l'enquête, est-ce que c'est une bonne enquête, une mauvaise enquête, police, gendarmerie, l'instruction, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise instruction, l'aspect politique, parfois, parce que les politiques s'en mêlent parfois, pas tout le temps,
oui,
la police scientifique, l'arrivée de la police scientifique, ensuite le procès, la sanction, la prison, parfois la récidive. Donc on passe aussi par la case prison. Et moi, je suis allé voir assez souvent des gens en prison. Je suis allé voir Patrick Henry jusqu'à sa mort, même quand il est sorti de prison. J'ai rencontré Jean-Claude Roman, j'ai rencontré Marcel Barbeau, j'ai rencontré tout un tas de personnes en prison. Barbeau, il avait pas très envie de me voir, il m'a insulté, il m'a bon. Mais voilà.
Et donc, quelle affaire, Barbeau ?
Et donc Barbeau, c'est le tueur de l'ombre dans l'Oise. Exactement. Et pas le tueur de l'Oise. Mmh. Qui était Alain Lamarre, le gendarme,
oui, le gendarme
Israël Coeur. Donc Marcel Barbeau tue 6 femmes et un homme dans l'Oise, donc on l'appellera le tueur de l'ombre, parce que c'était des secrétaires qui rentraient de Paris à la tombée de la nuit, entre octobre et mars. Donc voilà, l'humain est important, et puis qu'est-ce qu'on peut espérer de l'homme ? Parce qu'il faut sortir de prison un jour. Patrick Henry est sorti, tiens, Marcel Barbeau, il n'est pas sorti, ça fait 45 ou 47 ans, c'est le plus vieux prisonnier de France, et il faudrait songer à le laisser sortir un jour. Il sort pas parce qu'il veut pas reconnaître les faits. Mais ce que dit Fabien est intéressant parce que aller au tribunal, écouter la vie des autres au tribunal, voir ce que l'on peut traverser, voir aussi, il y a la résilience, la façon dont la justice est rendue. Parfois c'est choquant, et puis parfois c'est violent. On a l'impression que les juges parfois font pas le job complètement et que parfois ils le font trop. Donc on a chacun son point de vue là-dessus. Est-ce qu'on croit encore en l'homme ? Est-ce qu'on dit il faut lui couper la tête ? Est-ce qu'on dit non, il faut pas le mettre en prison pour l'éternité parce que même la perpétuité réelle, ça n'a pas de sens. C'est mon point de vue. Voilà, il faut essayer d'en faire un homme meilleur. C'est notre boulot, c'est à nous de le faire. J'aime bien ce que vous dites, Fabien. Je vais vous offrir quelque chose parce que comme on a des fans absolus et que je suis un peu mégalo. j'ai fait faire par un copain qui fait des objets de com pour RMC Découverte, et qui s'appelle Thomas. Il m'a fait des mugs Faites Entrer l'Accusé. Ah, c'est des collectors.
J'adore.
Alors attends, est-ce que j'ai ma boîte, hein, moi j'ai ma société, je facture BFM, je facture Faites Entrer l'Accusé, et donc je l'ai fait faire sur ma société. Donc si je me fais attraper par les impôts, ça va être une cata, mais je m'en fous. Et donc j'ai fait faire des mugs et des casquettes Faites Entrer l'Accusé siglées Dominique Rizet avec une signature sur le côté. Et je peux te dire, Fabien, que quand je me balade, j'en ai toujours dans le coffre de ma bagnole, et que les gens, je sors les mugs. Donc alors là, je vais faire deux cartons de 36, je vais en faire un troisième. Thomas doit nous écouter. Thomas, tu me fais un troisième carton, s'il te plaît. Et je vous en apporterai. Ah, ouais. Et Fabien, vous vous débrouillez pour laisser vos coordonnées. Je vais vous envoyer mug et casquette.
Thomas, l'autre Thomas, Fabien, je vous donne la parole, mais de l'autre Thomas, notre coordinateur du standard, va vous reprendre dans un instant en ligne. Il vous laissera vos coordonnées. Allez-y, Fabien, un dernier mot. Alors, dernier mot, parce que vous êtes nombreux à nous appeler.
J'avais suivi un dossier d'un docteur d'un hôpital qui violait des étudiantes, qu'il avait fait ça sur 6 ans. Il a fait ça un stratège. Il avait fait des flyers, tout ça. Il faisait venir, il faisait des attouchements sexuels dans le sein même de l'hôpital. C'est se mettre dans la tête du mec pourquoi il a fait ça. C'était mais le tout, il a monté ça avec des faux flyers, des machines, des faux protocoles et tout. Et il a fait ça pendant 6 ans. Il s'est fait balancer par sa femme. Mais on se met dans la tête du mec, pourquoi tu as fait ça, quoi ? Et les petites, pourquoi vous venez ? Ben, les expliquer, ben, parce qu'il y avait de l'argent à se faire.
Ah, c'est la nature humaine, ça enseigne beaucoup sur la nature humaine. Mais merci, Fabien, je suis obligé de vous couper, je suis désolé, il est passionné. Tu sais que là, il peut rester jusqu'à 18h, 19h avec nous.
Mais moi, je reste, hein.
Ouais, mais vous êtes nombreux à nous appeler. Merci, Fabien, de nous avoir appelé, au 3216. Et il y a Lamine qui nous rejoint. Bonjour, Lamine.
Oui, bonjour, Écoutez, je suis un voisin de Fabien parce que je suis avec Aix-en-Provence, moi aussi.
Et ben voilà.
Je suis pas sûr avec Aix-en-Provence, on est tous passionnés de crime et de meurtre.
Bon, je pense que ça fascine tout le monde, mais vous faites quoi dans la vie, Lamine ?
Je Je suis chauffeur accompagnateur pour des enfants handicapés. Bon, donc, vous imaginez comme ce genre d'affaires, là, Émile, Lina, Grégory et compagnie, ouais, ça me touchait en particulier.
Et forcément. Et Lamine, Dominique Rizet est à mes côtés. Je sais que vous êtes fan de Faites entre l'accusé.
Absolument. Moi, j'ai connu à l'époque où il avait des cheveux. Alors, vous imaginez un peu. Donc, je le connais depuis très, très longtemps, depuis les débuts.
C'est vrai. Ça fait 25 ans.
Exactement.
Alors on en a, Lamine, on en a tourné 4 encore la semaine dernière. Et on a fait le 300e. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je vais le dire quand même.
Oui.
On a fait le 300e. Et le 300e, ça sera l'affaire Pastor. Le meurtre de Madame Pastor, la riche monégasque qui devait peser 8 milliards d'euros, qui est tuée sur le parking de la clinique avec son chauffeur. Et elle venait voir son fils qui était hospitalisé. Voilà, elle a été tuée. Ça sera la 300e de fait entrée.
Bah voilà, c'est une exclue pour vous, Lamine.
Ce que je voulais vous dire, sacré exclu, je serai devant mon poste, devant RMC Découverte, hein, comptez sur
story.
Moi. Donc, story, oh là là,
je mélange. Il y a aussi des rediffusions de Découverte, c'est ça?
Et ce que je voulais dire,
ça va bouger. Ah. Ça sera peut-être plus sur story, mais je peux pas en dire plus.
Bon.
Vous avez contribué aussi à faire quand même un grand élargissement, en fait, sur la société. Parce que ça nous parle, en fait, tous ces crimes. Ça nous parle sur ce qu'est la société. Comment elle est, c'est un éclairage. Vous voyez ? Il y a beaucoup de gens qui se font des idées préconçues sur la criminalité et sur leurs auteurs.
J'aime bien ce que vous dites, Lamine. J'aime bien ce que vous dites.
Je veux dire, on ne connaît pas le parcours des gens.
Bien sûr.
On
ne
connaît pas ce qu'ils ont fait et on ne connaît pas ce qui les a amenés à faire ça. Vous voyez ?
Vous savez, Lamine. Il y a des gens qui sont qui vont nous bassiner avec ouais il faut leur faire ci, les criminels il faut puis un jour ils vont se retrouver père de famille et père d'un garçon qui va devenir un criminel et regardez la mère je vais même dire la maman de Jonathan Daval tous les criminels ont une mère et les mères sont au tribunal et viennent dire à la barre mais mon fils je pensais pas qu'il était comme ça c'est un garçon formidable bah ouais jusqu'à ce qu'il fasse ça c'est un garçon formidable donc même eux ont une mère il faut essayer de comprendre il faut essayer de se mettre à la place de tout le monde.
Si je peux me permettre, je pense qu'il faut aussi accepter de ne pas tout comprendre. C'est-à-dire qu'on cherche des raisons, et souvent il y en a, effectivement, et on en trouve. Mais il y a aussi beaucoup de cas où il n'y a pas de raison, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le mystère du mal. Et voilà.
Lola.
Et tout à coup, on est saisi par un individu qui paraissait rationnel, et qui paraissait un bon voisin ou un bon père de famille.
Lola, c'est à Paris, il y a quelques...
Le meurtre de la petite Lola, totalement inexplicable.
Il y a quelque chose de mystérieux, et que moi, en tant que catholique, je dirais même de satanique, parfois. Je ne dis pas de ce cas en particulier, mais
aussi, hein.
Je dis ça, voilà. Il y a l'existence du mal et qu'il ne faut pas oublier.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans qui nous écoutent. Moi, j'ai lu un livre, peut-être que vous l'avez lu, j'imagine, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup appris sur ce que ça peut être ce genre d'affaires. C'est Laetitia, c'est un livre de Yvon Jablonka, qui est un chercheur qui a écrit sur le meurtre de cette jeune femme, Laetitia.
Ouais.
Justement ce que vous disiez, les enjeux.
Laetitia Perret qui avait été tuée par Nick.
Exactement. Sur les
Tony
enjeux.
Meillon. Ouais, Tony Meillon.
Exactement. Sur les enjeux sociaux, sur les enjeux politiques, sur les enjeux judiciaires. Et avec beaucoup de profondeur, c'est très accessible. C'est terrifiant. Enfin, moi, ça m'a retourné le bide, hein, parce que c'est vraiment. En fait, c'est la chronique d'un meurtre annoncé, cette affaire. Et c'est vraiment très, très bien fait. Donc, je vous le recommande, Laetitia de Yvon Jablonka.
Merci à Lamine d'avoir été avec nous. Allez, très rapidement, Chloé nous rejoint au 32-16. Bonjour Chloé.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Vous nous appelez depuis Blagnac, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et bon. Je suis déjà passée la dernière fois pour le même sujet.
Ah bah très bien, mais écoutez, voilà.
Une vraie fan.
Ceci étant dit, on vous a posé la question, est-ce que notre fascination pour les faits divers, elle est malsaine? Vous pensez plutôt que oui, hein, Chloé?
Alors oui, doublement malsaine, j'ai envie de dire. Déjà pour les gens qui regardent. Parce que je vois pas comment on peut pas être dépressif après avoir regardé toute une soirée de Faites entrer l'accusé.
Ah bah ça secoue en tout cas.
Ouais, ça secoue.
Et le fait qu'on en fasse des stars ce soir, enquête sur Dahmer, je dis Dahmer parce qu'il y a que ça qui me vient à l'esprit, je connais pas trop les noms.
C'était un tueur en série américain qui se reprenait à des homosexuels, de jeunes homosexuels.
Voilà, et ça me dérange beaucoup en fait, qu'on les mette en avant. Qu'est-ce que doit penser la famille derrière de se dire... Mon fils a été charcuté et tué par un homme et on va faire une émission sur lui.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Chloé, d'ailleurs, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle avait appelé, c'est qu'il y a quelques mois, dans Estelle Midi, justement, on avait parlé de la starification de certains criminels. Et est-ce que c'était gênant?
Alors oui, c'est gênant, bien sûr. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment que dans Faites Entrer, on les starifie, mais non. Oui, c'est gênant parce que on m'a déjà posé la question. C'est Chloé qui nous parle. Hein,
oui, ça absolument, Chloé.
On m'a déjà posé la question, Chloé, quand je suis allé à l'école de la magistrature, à l'école des officiers de gendarmerie, à l'école des commissaires. Voilà, est-ce que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça. Ces gens-là, on en parle, et moi, en tout cas, je connais les noms de leurs victimes. Mais essayez de me dire. Vous, madame, Chloé, si vous regardez un peu ces histoires-là, et essayez de me dire le nom d'une victime des disparus de Perpignan, d'une victime de Guy Georges, d'une victime de Francis Holm, d'une victime de Pierre Chanal. Je peux toutes vous les citer par cœur, parce que je les connais et parce que pour moi, elles ont de l'importance. Autant, bien plus d'ailleurs, parce qu'elles sont des victimes, que l'auteur. Moi, je connais les noms des victimes, et je connais leur famille aussi, et je connais leur souffrance. Je connais le nom des victimes de Christian Van Gelhoven, qui avait tué la petite Ingrid Van de Portal et Muriel Sanchez à Elne en 1991. J'ai été pendant très longtemps en contact avec... C'est une horreur, cette histoire-là est vraiment une horreur. Et j'ai été pendant très longtemps en contact avec les parents. Il y a des parents qui m'appellent la nuit. Il y a des gens qui m'appellent juste pour me parler de cette histoire. Il y a des histoires qui ont 20 ans. C'est mon petit monde de fantômes. En tout cas, ces gens-là sont importants pour moi et sont bien plus importants que les auteurs. Ensuite, c'est moi, Dominique Rizet, parce que je travaille sur ces histoires et que j'ai vraiment les mains dans le cambouis. Mais voilà, j'ai plus de... Bien évidemment, j'ai de la compassion pour les victimes et j'ai pas d'admiration pour les tueurs.
Merci beaucoup Chloé de nous avoir appelé au 32-16, elle nous appelait depuis Blagnac. Merci beaucoup Dominique, encore une fois.
Merci, c'est passionnant. Rémi, merci les amis.
C'est passionnant.
Et les mugs, hein.
Et ouais, bah,
Nico, oui, je les ai vus, ils sont magnifiques.
C'est passionnant.
C'est court. Tu les as vus comment?
Ah, je peux pas te dire.
C'est vrai. C'est sûr, c'est les journalistes, là. Oui. C'est passionnant et puis surtout, c'était très intelligent. Merci. Je tiens à le dire.
Non, mais c'est gentil de m'avoir invité. Voilà, je suis content d'avoir du temps pour en parler.
Mais Laurent le disait tout à l'heure, les faits divers, ils sont ce qu'ils sont. Et il y a la manière de les traiter. C'est notre métier, c'est l'honneur de notre métier, et tu fais honneur à notre métier.
je me permets de dire, Rémi, qu'on retrouve Dominique tous les dimanches à 13h sur BFM TV dans Affaires Suivantes. Ouais. Et le dimanche soir, Faites Entrer l'accusé.
Merci.
Ce sur dimanche, RMC Sport.
21h05. Merci beaucoup, Dominique.
Merci les amis.
On vous a posé la question, tiens, à faire Émile, Lina, Grégory, notre fascination pour les faits divers, est-ce qu'elle est malsaine?
Eh bien, c'est très serré.
Ouais.
On peut parler de marge d'erreur, Rémi. Mmh. Vous répondez non, mais pour seulement 51% d'entre vous.
Voilà. Allez, dans un instant, comme tous les vendredis, ce sont les notaires qui vous répondent dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi, Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Et comme tous les vendredis à cette heure-là, les notaires sont avec nous.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Et la représentante des notaires de France aujourd'hui,
bonjour,
c'est maître Nathalie Pussigo-Suas, notaire à Paris, qui est avec nous. Bonjour maître. Allez, sans plus attendre, je vous pose cette question. Elle nous a été postée par Sonia. Sonia, elle a 63 ans et donc elle nous a envoyé ce message. Bonjour, mon époux a récemment été diagnostiqué malade d'Alzheimer. Nous projetons de vendre nos biens, de faire des donations à nos enfants dans les prochaines années. Mais vais-je pouvoir réaliser cela seul, les décisions de mon conjoint étant parfois altérées, ou dois-je faire les démarches particulières? Voilà, c'est une question difficile parce qu'on parle de maladie, mais...
Et de générosité. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir en droit, c'est que pour faire un acte juridique valable, il faut être sain d'esprit, voilà. Ou il faut avoir sa capacité. Capacité, c'est-à-dire qu'un mineur, il ne pourra pas signer. De même, lorsqu'on n'a pas toute sa tête, eh ben on ne peut pas contracter valablement. Donc Sonia, elle va être confrontée à cette difficulté, effectivement. Donc soit elle enclenche tout de suite une procédure, par exemple d'habilitation judiciaire, qui se déclenche sur la production d'un certificat médical, hein, d'un médecin psychiatre inscrit sur une liste du procureur, et elle va demander au juge des tutelles, la protection de son mari lui soit confiée. Par précaution, c'est d'abord au conjoint que l'on donne. Il y a toute une gradation. Et avec cela, elle pourra, sur autorisation du juge, vendre la maison. Alors, c'est plus difficile pour les donations. Parce que quand vous vendez une maison, vous avez le prix en contrepartie. Ouais. C'est ce qu'on appelle un acte équilibré. Une donation, par définition, c'est ce qu'on appelle un acte gratuit. C'est-à-dire, vous donnez, mais vous n'avez rien en retour. Donc, c'est un acte particulièrement grave. Donc, normalement, pour une personne dite vulnérable, on n'a pas le droit, à sa place, de faire des donations. puisqu'on se dépouille sans contrepartie. Alors, la position des tribunaux, maintenant, c'est de dire, en fait, le juge des tutelles pourrait peut-être l'accorder.
Parce que le mot qui me vient à l'esprit, c'était tutelle.
Voilà. Si la personne, alors qu'elle n'était pas sous tutelle, elle avait manifesté le souhait de gâter ses enfants. Ouais. Mais du coup, pour Sonia, pour notre auditrice, il va falloir qu'elle saisisse le juge des tutelles, qu'on appelle maintenant le juge du contentieux de la protection, pour que son mari soit placé sous une protection judiciaire. Il aurait pu éventuellement, tout en ayant sa tête, signer un mandat de protection future chez son notaire, qui lui aurait permis d'éviter cette... Mais s'il a déjà des signes d'Alzheimer, c'est plus possible parce qu'on ne peut plus contracter.
Alors j'y pense, parce que très rapidement, on a encore une fois après pris par le temps, mais avant d'être malade, quand on arrive à un certain âge, est-ce que par précaution, il vaut mieux déjà aller voir son notaire et dire bon voilà, nous avons trois enfants.
Bien sûr.
Et je veux que vous vous inscriviez que si jamais il m'arrivait quelque chose ou je ne suis en
capacité. C'est très judicieux, Rémi, et beaucoup de gens le font. C'est ce qu'on appelle un mandat de protection future qui n'existe pas qu'en France, qui est très répandu dans beaucoup de législations mondiales et qui justement permet à un individu, alors qu'il a toute sa tête, de dire voilà, si un jour justement je n'ai plus ma tête, je veux que ce soit telle personne et selon telle modalité. C'est ce qu'on appelle un mandat directive anticipée sa santé, mais mandat de protection future pour sa personne et pour ses biens. Pour notre Sonia, si j'ai deux conseils bienveillants à dire, mais parce que les notaires de France, on est souvent confrontés à ces difficultés. Certes, il va falloir que Sonia, notre auditrice, mette en œuvre cette procédure, mais aussi, il y a deux conseils. Qu'elle ne se dépouille pas trop. Parce que effectivement, la maladie, même si on est bien pris en charge, si elle veut rester au domicile, elle aura besoin d'aide à domicile, ça coûte des sous. Donc c'est bien d'être généreux et on connaît très bien la solidarité intergénérationnelle dans nos études, mais il ne faut pas se dépouiller trop. Et puis aussi, autre conseil qu'on voit d'expérience, il faut que Sonia, si elle pense à elle. C'est très facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire parce que dans nos études, on voit malheureusement beaucoup d'aidants qui partent avant les vulnérables parce qu'ils se sont tellement fatigués qu'ils partent avant. Donc c'est une double catastrophe. Donc c'est peut-être pas guesse que je vous dis, mais il faut avoir conscience et il faut regarder les choses en face.
Merci beaucoup Maître Nathalie Kouzigou-Mouzuas d'avoir été avec nous, notaire à Paris. Allez, dans un instant, Paul. Tiens, peut-être que la personne, si elle gagne, elle va voir son notaire après. Oui. Parce que là, on va faire gagner de l'argent, mais beaucoup d'argent.
Oh, super.
On ouvre le coffre RMC jusqu'après la pub, vous pourrez emporter peut-être jusqu'à 50 000 euros.
Allez, c'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Merci, Maître.
Merci. RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. C'est un grand moment.
Visiblement. Ah,
voilà. À tel point que.
Ouvrir le coffre RMC.
Le coffre RMC.
Donatien, notre réalisateur, celui qui réalisait cette émission, était très ému. C'est un grand moment, oui, parce qu'on va jouer au coffre RMC. Et à côté de moi, il y a Paul Lassen, ça vous le savez.
Mais pour ceux qui nous écoutent en radio,
nous a rejoint Grégory Caranoni, directeur d'antenne d'RMC. Et je peux vous dire, quand
l'homme du coffre, comme on l'appelle dans les couloirs,
c'est pas pour rien.
Bonjour à tous.
Salut Greg.
Salut.
Le coffre est là. Il est devant moi, à côté, entre nous deux. Voilà. C'est un coffre, un vrai coffre, bien solide. Paul, rappelle-nous le principe.
Eh bien, nous allons être en ligne avec un auditeur dans quelques minutes.
Qui s'est inscrit en envoyant un coffre.
Qui a été tiré au sort, qui a d'ores et déjà gagné 2500 euros. Et un dilemme va se présenter à lui. Je te laisse l'expliquer, Grégoire.
Ah oui. Avec plaisir. Dans ce coffre.
Ou pas, je peux y aller.
Si, je le fais avec plaisir.
Moi, je peux le faire aussi.
Dans ce coffre, il y a soit une semaine pour 6 personnes dans un des campings Tikayan, soit
la
50 000 euros.
Grégory,
50 000 euros. Mais pour pouvoir ouvrir le coffre RMC, il faut renoncer aux 2500.
Absolument.
Pierrick est avec nous. Bonjour Pierrick.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Pierrick, vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Somos.
C'est où ça ?
D'accord,
près de la Cano.
En Gironde. Très bien. Bordeaux, la Cano.
Vous faites quoi dans la vie, Pierrick ?
Je suis ingénieur.
Très bien. Bon, vous avez compris le principe. Pierrick, vous avez d'ores et déjà gagné 2500 euros.
C'est une très bonne nouvelle.
C'est une très très belle somme.
Ça m'étonne.
Mais je dois vous poser la question. Les 2500, vous les gardez ? Vous repartez avec ? Ou alors vous acceptez d'y renoncer ?
Est-ce que vous osez ouvrir le coffre à RMC, Pierrick ?
Exactement.
C'est ça la question.
Je réfléchis une seconde.
Prenez votre temps.
Je consulte les astres et j'ouvre le coffre.
Allez !
Oh là là là.
On aime votre audace.
C'est votre dernier mot, Pierrick.
C'est pareil.
C'est mon dernier mot.
Ok. Donc, Grégory est avec moi. Il va avoir l'honneur d'ouvrir le coffre RMC.
Vous êtes vraiment sûr, hein?
Certain.
2500 euros.
50 000 que 2500.
Pierrick, 2500 euros, c'est quand même une très très belle somme.
Ah oui.
Je comprends. Mais non, je vais tenter les 50 000.
Vous aimez le camping, Pierrick?
J'aime aussi le camping, ça tombe bien. Et comme j'ai 3 enfants, pour 6, ce sera bien.
C'est un très beau cadeau.
Bon, c'est un très beau cadeau, quoi qu'il arrive.
Ah oui.
On l'ouvre alors.
Allez, vas-y.
32, 16, dièse. Je vous donne le code. Je suis sympa. Vas-y, Rémi, je te laisse
ouvrir. Ah, merci. Il est ouvert. À l'intérieur, j'ai une sorte de flyer, mais il y a quelque chose d'écrit dessus.
Comme un passeport, non?
Bon, vous êtes combien dans la famille? On a dit 3 enfants?
3 enfants, oui.
Eh bien, vous pourrez loger tout le monde une semaine pour 6 dans l'un des campings Tikayan à travers toute la France. D'ailleurs, c'est dans le sud de la France. Provence, les Alpes, la Côte d'Azur, le Var ou encore le Verdon. Franchement, une semaine de vacances. Moi, je ne sais pas ce que je choisirais. Oh, le Verdon.
Le Verdon, moi, je suis tenté par le Verdon.
Bien, quand même.
Je garde la semaine avec plaisir. Merci beaucoup.
Bah oui, vous passerez de très belles vacances. On vous le souhaite en tout cas. Merci d'avoir joué avec nous, d'avoir été avec nous, Pierrick.
Merci à vous et bonne journée.
Et belle journée à l'équipe RMC.
Bah, ça n'est jamais fini. C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC dans les shows. Il reste dans cette journée magnifique. Si vous tentez de gagner 50 000 euros grâce au coffre, c'est le moment de jouer en envoyant coffre par SMS au 732-16.
C'est jamais, jamais fini. Hein. Après Rotten sans flamme, ce sera terminé.
Oui, mais bon.
Les chances se réduisent en
deux émissions pour jouer, pour gagner. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Coffre par SMS au 732-16.
Merci Grégory.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Allez, les immanquables avec Paul Lassène. Paul, on va commencer par l'annonce du jour.
En déplacement en Gironde, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé la création d'une force mobile pour la sécurité des établissements scolaires ciblés par des menaces. Une force mobile de sécurité physique, dit-elle, qui sera nationale et pourra être mise en place dans les établissements qui connaissent des difficultés. Les enseignants ne sont pas seuls et nous formons tous un bouclier autour d'eux, a dit Nicole Belloubet.
Lumière. Toi qui es, je dis, de famille d'enseignants,
ouais.
Ta maman est enseignante.
Oui, comme d'hab, du vent, quoi. Les défis qui attendent l'école de la République, ils sont immenses. On a fait de l'école de la République, depuis les premiers attentats en France, cette espèce de lieu surinvesti, sanctuarisé, qui doit se battre pour toutes les batailles que la France doit mener. Et je crois que c'est pas avec 20 personnes qui vont pouvoir se déplacer à gauche, à droite, s'il y a un problème, qu'on va résoudre le sujet. J'aimerais à un moment qu'on se pose, qu'on écoute les enseignantes et les enseignants et leurs syndicats, et qu'on prenne des vraies mesures profondes qui vont permettre à la communauté éducative de faire leur métier avec sérénité. Pour eux, mais aussi pour leurs élèves. Parce que quand on voit ce qui se passe au lycée Maurice Ravel, mais ailleurs, c'est toute une communauté éducative qui est traumatisée. Ça n'a pas. Je veux dire, il faut prendre la mesure de l'impact que ça a sur les profs, sur l'équipe administrative, mais aussi sur les élèves.
On parle de ce proviseur qui a été menacé de mort par une élève qui avait dit demandé de retirer son voile et qui finalement a
démissionné.
Il n'a pas démissionné, il a pris sa retraite anticipée, voilà.
Oui, mais voilà. Enfin, je veux dire. Comme d'habitude, mais c'est comme pour la crise climatique, c'est comme pour les discriminations face aux femmes. Ils pensent qu'avec une annonce, ils vont résoudre le problème. Une annonce et 3 francs 6 sous, parce qu'on a bien compris qu'on était dans un moment de déficit et que la dette devenait le sujet le plus important sur le terrain. Et là, je pense que vraiment, il faut se poser la question de si on est sérieux et qu'on veut vraiment apporter des réponses à la communauté éducative, et Dieu sait qu'elle en a besoin, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne met pas 20 gus qui vont pouvoir prendre une voiture pour intervenir, quoi.
Laurent Dandrieux.
Oui, enfin, ceci étant, c'est facile de dire qu'est-ce qu'on fait et de laisser le point d'interrogation et de pas donner de solution non plus. Le problème, c'est que c'est un problème qui dépasse très largement le cadre de l'école.
Ah oui.
Après, je pense que c'est déjà un premier pas, effectivement, de tenter de sécuriser les écoles autant qu'on le faire se peut. C'est probablement très insuffisant parce que c'est la société tout entière qui, en fait, qui est sous la menace de d'attaques concertées contre la laïcité. Donc c'est un problème effectivement qui est lié très nettement à l'immigration, disons-le.
Non, bah alors ça, c'est ton point de vue. Il faut quand même le dire. Moi, je ne partage pas.
Mais oui, si je le dis, c'est que c'est mon point de vue.
Oui, mais non, mais c'est bien. Non,
enfin, ça va.
C'est bien de le préciser.
Oui, non, c'est parfaitement superfétatoire en l'occurrence. Mais donc tant qu'on n'aura pas maîtrisé les flux migratoires, eh bien on aura ce genre de problème.
Voilà. La noce du jour.
En déplacement au Brésil pour sauver la forêt amazonienne notamment, et malheureusement ce n'est pas pour ça que l'on parle du voyage d'Emmanuel Macron en Amérique du Sud. Non, ce sont les séances photos du président de la République et de son homologue brésilien Lula qui font parler, enfin rire plutôt, tantôt main dans la main, tantôt hilar. Beaucoup d'internautes ont fait un parallèle entre ces clichés et des clichés de mariage, des réactions qui ont fait réagir Emmanuel Macron lui-même. Je le cite, « Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d'un mariage. Je leur dis, c'en était un, la France aime le Brésil et le Brésil aime la France », a publié le président sur son compte Twitter.
Juliette Briens, il y a notamment cette photo où on voit...
Il n'y a pas que celle-là.
Je ne parlais pas de celle qu'on voit actuellement sur RMC Story, mais j'ai vu cette photo, tu sais, où on voit Lula et Emmanuel Macron de dos, main dans la main, et qui entrent dans la forêt amazonienne. Alors, il y a une mise en scène.
Il fait ça à chaque
fois. Est-ce que c'est gênant ou pas?
Non, mais il fait ça à chaque fois, en fait, quand il part à l'étranger et qu'il aime la personne qu'il rencontre, il y a une sorte de décontraction qui rentre en lui.
À l'étranger d'ailleurs.
Oui,
Kylian Mbappé.
Oui, oui, aussi, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Quand il sort, en tout cas, de son cadre normal, de sa journée basique, oui, de rendez-vous à l'Élysée, et qu'il se sent bien, qu'il se sent à l'aise,
il
part dans la décontraction totale, et surtout, ce côté tactile qu'a Macron,
que Nicolas Sarkozy avait aussi, paraît-il.
Ça s'est moins vu que Macron il aime les poignées de main à rallonge qui parfois il se fait même repousser aussi.
Il venait d'arriver à l'Élysée aussi.
Oui, bien sûr. Parfois il se fait même repousser sur ses longues poignées de main. Il aime toucher, il aime faire des câlins et bon bah parfois ça a l'air de très bien se passer. En tout cas il a l'air consentant dirons-nous, mais parfois il se fait un peu repousser. On a vu qu'il y a Mbappé un petit peu mal à l'aise. Ouais. La chanteuse, la dernière fois qu'elle avait chanté.
Catherine Ringer.
Tout à fait, exactement. Même Ringer qui avait aussi repoussé un peu, pas ses avances, mais juste simplement son côté tactile qui peut déranger. Moi, par exemple, c'est une personne, je sais, j'aime pas qu'on me touche, quoi. Les personnes qui sont pas proches de moi, que j'aime pas qu'elles me touchent, ça peut déranger, quoi. Et puis, bon, il y a toujours la fameuse décontraction, la chemise à moitié relevée, il adore. Voilà, pour lui, je pense qu'il veut se donner un côté cool et détendu.
Oui, mais est-ce qu'il est pas comme ça?
Ce qui est dérangeant, c'est.
Mais il est peut-être comme ça aussi, mais bon, on se moque, on a le droit de se moquer un peu.
C'est pas cool du tout en fait. C'est-à-dire que quand tu touches quelqu'un qui a pas envie d'être touché, en fait, tu l'annexes. C'est vrai.
Ah, c'est agréable.
Mais je suis désolé, mais en fait il y a une complicité forcée. Il y a un côté. Mais très souvent, on sent qu'effectivement, il insiste, il force une mise en scène de complicité avec des gens qui n'ont aucune envie d'avoir cette complicité. Par ailleurs, je reviens de Rome. Je peux vous dire que la presse étrangère et notamment l'italienne, ils s'en donnent à cœur joie.
Ah bon,
parce que pour l'image de la France, c'est quand même totalement ridicule. Il comparait ça à un remake du film Blue Lagoon.
Lumière.
Moi, ce que je trouve très dérangeant, c'est qu'en fait, comme d'habitude, il est dans la mise en scène de lui-même et qu'on finit par parler plus de lui que de la raison de son voyage diplomatique, qui est en l'occurrence la sauvegarde de la forêt amazonienne, entre autres, qui devrait, sujet hautement important qui devrait nous occuper bien plus parce qu'elle nous concerne tous. Et on finit par, comme d'habitude, mettre le projecteur sur lui, ses poignées de main, la main, un petit sourire, etc. C'est fatigant. Quel homme politique est-il pour ne pas réaliser que ça n'est pas sa personne qui nous intéresse, mais ce qu'il fait.
Allez, la mélodie du jour pour terminer.
Oui. De l'orthographe.
Et oui, on l'apprend aujourd'hui, les paroles des chansons se sont appauvries. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la science. Une étude de chercheurs autrichiens ont analysé 12 000 chansons sorties entre 1980 et 2020. Résultat, eh bien, les paroles sont devenues plus simples au fil du temps en ce qui concerne de multiples aspects. Écrivent les auteurs de cette enquête qui citent notamment la richesse du vocabulaire, la complexité et le nombre de lignes répétées. Autre changement notable et peut-être plus significatif, les paroles des chansons sont de plus en plus négatives.
Laurent Landrieux.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il faille une étude scientifique pour dire ça, parce que franchement, on
s'en fout. Tu l'écris à longueur de page.
Voilà. Et puis, alors, en plus, ils ont pris comme point de départ les années 80. Alors, qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient pris les années 50, Brassens et Trenet, quoi. Ouais. Moi, je suis resté inconsolable de ce qu'on n'ait jamais élu Charles Trenet à l'Académie française. Bon, je pense que la question se pose pas pour les vedettes de la chanson française d'aujourd'hui. Ça viendrait à l'idée de personne de présenter leur candidature.
Mais je pense que c'est pas simplement les paroles des chansons qui se sont appauvries, c'est notre langage tout simplement et notre vocabulaire général. On sait que le niveau s'effondre et le niveau de la société s'effondre, le niveau scolaire s'effondre. Les jeunes ont de moins en moins de vocabulaire, les profs nous le disent tous les jours, ils ne comprennent pas la moitié des mots et pourtant des mots qui sont quand même pas très compliqués à comprendre. Et donc ça se ressent, ça se transmet dans la culture populaire, c'est tout à fait normal et prévisible.
Lumière.
Oui, moi je pense que ce qui est bien, c'est quand même qu'on a les deux. Donc on peut écouter Brel et on peut écouter Dja Dja, donc c'est quand même un merveilleux monde dans lequel on vit. Après, je pense qu'en effet, ça pose la question de le langage. C'est pas seulement un outil, c'est aussi la représentation du monde dans lequel on vit. Et quand on a du mal à accéder au langage, à accéder à la complexité, je pense que ça dit aussi quelque chose de notre époque.
Allez, lui, on le comprend pas toujours, mais on l'adore. Vincent Moscato nous rejoint. Salut, mon Vincent. Allez, vas-y. Comment vas-tu?
T'es en forme ou quoi?
Un grand chanteur nous rejoint.
Et pas les garçons?
Ouais, c'est la chanson de tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, tcha tcha tcha.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Quel talent.
En
parlant flûte, tu vas nous parler de quoi dans l'émission là?
Et en parlant de flûte, on va parler de rugby. Grégory Aldrit doit laisser le brassard Antoine Dupont quand il rentre, parce qu'Antoine Dupont c'est l'ancien capitaine. Antoine Dupont, vous savez, il a été joué à 7, il revient maintenant à 15. Doit-il reprendre son capitaine?
Oui, quand on peut faire plaisir.
Celui qui le perd, quand même. Faire tourner pour le classique au MPG. Michel Riquet. Bon, là, il est bas, chaud, merci. Il dit peut-être que je vais faire tourner mon équipe.
Ah, mais l'équipe B,
c'est un peu méprisant pour voilà. Pour l'OM, est-ce mission impossible dimanche? Ah, ils ont une équipe de trompettes terrible.
Ah, c'est compliqué.
Ouais, là, ils ont une grosse équipe de trompettes. Là, le chauffeur de bus. Faut jouer tout le monde. Là.
Beaucoup de blessés. Hein.
Énormément de blessés. C'était Stalingrad le mois dernier. Pour l'OM. Ce week-end, c'est le retour de Romain Ntamack. 8 mois de suspension, d'arrêt, suite à une blessure, avant la Coupe du Monde. 8 mois. Tu vois bien, il est comme ça, il est gaillard.
C'est pas Ntamack, ça.
C'est qui, ça?
Je suis désolé.
Le coffre 50 000 balles, bordel.
C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir aujourd'hui le coffre RMC. Peut-être chez Vincent Moscato, si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre. C'est le moment de vous inscrire en envoyant coffre par SMS.
Vous avez de l'argent,
au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire, donc jouez tout de suite.
Voilà, le coffre RMC peut-être à gagner.
Il fait gagner un lingot. Hein. 60 000 balles. Hein.
C'est toi, 60 000 balles.
Et c'est
toi
qui paye. Hein. C'est pas rien.
Bah, 60 000 balles, tu peux partir une semaine.
C'est pris sur ton salaire.
Mais c'est pris sur ton salaire, tu sais ça.
Mais non, je le verrai pas passer. Je te jure que tu me le prends, je le verrai pas passer.
Bon, Vincent, le super Moscato Show, c'est dans un instant sur RMC.
Je suis pété d'oseille.
Et le retour d'Estelle Midi, c'est lundi avec Estelle Denis. Bah oui, 1er avril, ça sera le jour de Pâques, lundi de Pâques, mais on sera là avec Estelle. À lundi et bon week-end.